France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec l'écrivain Daniel Rondeau ce soir pour cette première émission de l'année 2022. Daniel Rondeau, écrivain mais aussi journaliste, éditeur, ambassadeur et désormais académicien. Il a été reçu sous la coupole il y a 2 mois alors que sortait son dernier livre, Arrière-Pays, chez Grasset. Un ouvrage qui nous emmène pas très loin de chez lui, dans l'Aube, un département et plus largement une région que la crise des Gilets jaunes a sorti de son apparente torpeur. Un arrière-pays qui, comme bien d'autres, a vu les usines fermées et qui a vu aussi les médecins partir à la retraite sans être remplacés. Une situation qui a tendance à s'aggraver un peu partout en France, comme ici.
J'ai eu une patiente avant Noël, 87 ans, en pleurs au téléphone. Elle me dit « Écoutez docteur, j'ai plus de médicaments, je ne trouve personne pour me dépanner ». C'est terrible, hein ? 87 ans, on est en France.
Reportage dans le pays de Bray en Normandie de Béatrice Duguet à suivre. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Juliette Gou, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, avec la crise du Covid qui a repris le dessus. Cette semaine, à 3 mois du premier tour de la présidentielle, on parlera aussi d'Europe avec celui qui fut ambassadeur à Malte. On évoquera la mémoire de Johnny Hallyday dont il a prononcé l'horizon funèbre à la Madeleine et on parlera de l'Académie française où il siège désormais. L'Académie française qui s'élève contre les cartes d'identité bilingues français-anglais. À 19h, le journal d'Hélène Filly, à 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, on va s'arrêter sur le procès des attentats du 13 novembre 2015. Procès qui a été suspendu 2 semaines et qui vient tout juste de reprendre et qui a de nouveau été reporté jusqu'à mardi prochain, 11 janvier, si tout va bien. Il y a déjà eu 4 mois d'audience, il doit y en avoir encore autant. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous dire tout simplement comment vous suivez ce procès. Le numéro est toujours le même, 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes et à ceux qui sont en régie, Loïc Frapsos, Louis Audebert et Arnaud Caillé.
Frédéric Barrère. Une semaine en France.
Bonsoir Daniel Rondeau.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, éditeur, diplomate, vous avez été ambassadeur également à Malte et vous êtes surtout écrivain, auteur d'une 30aine d'ouvrages, d'essais, de témoignages et de romans. Vous êtes lauréat de nombreux prix littéraires. Le dernier, en 2017, le grand prix du roman de l'Académie française pour Mécanique du chaos. C'est le premier volet d'une trilogie dont vous venez de publier le 2e tome, Arrière-Pays, toujours chez Grasset. Merci Daniel Rondeau d'avoir accepté notre invitation. Ce titre Arrière-Pays, pourquoi ce titre?
Ben, comme vous l'avez dit, il y a 4 ans, j'avais publié Mécanique du chaos et j'avais essayé de raconter la vie dans des territoires qui étaient livrés à l'argent sale et à l'islamisme, ce qui est souvent ou parfois la même chose. Et je me suis dit, je vais essayer de continuer cette description de la France contemporaine, en essayant de décrire aussi une société en action, c'est-à-dire avec des personnages. Et je me suis intéressé à cette France provinciale, rurale, et qui est une France un peu blessée. En fait, j'avais été invité, il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, à la centrale de Clairvaux, par l'instituteur, pour intervenir dans son cours, dans son enseignement, parce qu'il avait fait travailler plusieurs détenus autour d'un de mes livres. C'était une première à cette époque-là. C'était une centrale de détention avec des conditions de sécurité très drastiques. Et je m'étais rendu là-bas. J'avais passé une journée assez impressionnante et formidable avec cet instituteur et aussi parler avec ses prisonniers. Et en sortant de là, je me suis promené naturellement dans les environs. J'ai vu une petite ville qui avait été une ville très importante au moment du Moyen-Âge, avec des foires qui participaient aux foires de Champagne. Et il y avait une grande verrerie, il y avait la cristallerie royale qui avait été fondée par Louis XIV. Il y avait des forêts, le paysage, je dois dire que les paysages étaient magnifiques. Je me dis, on est dans une France un peu resplendissante. Et là, je m'apercevais que cette France était en partie morte. Et que moi-même, sortant de cette prison, j'oublie totalement que ça a été l'abbaye de Saint-Bernard. Si vous voulez, on est tellement impressionné par les conditions de la déambulation dans les prisons.
Avant la centrale de Clairvaux, c'était...
J'avais vu, en plus, j'avais aperçu Carlos qui était en train de fumer son cigare. Et je m'aperçois que moi-même, j'ai oublié que c'était l'abbaye où avait vécu Saint Bernard, qui était venu mettre sa foi au service des plus pauvres et qui avait provoqué un véritable renouveau culturel et spirituel dans toute l'Europe. Et je me dis, ces gens qui vivent là, en fait, ils sont privés un peu de leur socle, parce que vous avez dit, il y a des industries qui s'en vont, le chômage, ils sont privés de leur socle économique, mais ils sont aussi privés de leur socle intellectuel, spirituel. Si vous voulez, avant on disait il y a du lumpen prolétariat. Vous savez, le prolétariat en haillons. Là, ces gens, ils ne sont pas dans l'extrême pauvreté, mais il y a quelque chose qui, en haillons chez eux, c'est leur joie de vivre, c'est leur espérance, si vous voulez. C'est comme si le sol de leur pays s'était un peu dérobé sous leurs pas. On les a privés d'une continuité historique et on ne leur dit pas où ils vont, vous voyez. Donc ils sont sans passé, d'une certaine façon sans avenir, ils flottent.
Cette histoire donc démarre arrière-pays chez Grasset, démarre au début du quinquennat Macron avec un fait divers, un meurtre, un routier polonais assassiné. Ça provoque un séisme dans la région. Et ce récit, cette histoire, correspond aussi à l'éclosion et au début de la crise des Gilets jaunes en 2018. Là, le récit est confronté à la violence. Au départ,
les Gilets jaunes sont arrivés pendant que j'étais en train d'écrire
ce livre.
Donc,
voilà.
J'avais déjà tous mes personnages. Si vous voulez, j'avais parachuté les personnages que j'avais inventés, qui était un producteur de cinéma parisien, une réalisatrice de télévision allemande, un ancien légionnaire un peu marginalisé, tous ces gens, ce médecin dont vous avez parlé, qui est un des personnages que j'aime beaucoup particulièrement, pour qui j'ai de l'affection. Et puis, les Gilets jaunes sont arrivés. Et donc, je me suis dit, et j'ai vu que, dans toutes ces régions, mais pas uniquement dans celle-là, c'était un peu la même chose dans toute la France, il y avait des gens, moi je me souviens très bien être rentré de Paris un soir pour rentrer chez moi en Champagne, et arrêté avec ma femme sur l'autoroute, parce qu'il y avait 40 jeunes femmes, qui étaient des caissières, des hôtesses de caisse de supermarché, qui étaient sur l'autoroute, qui avaient leur gilet jaune et qui laissaient passer les véhicules. J'ai vu qu'il y avait quelque chose de profond, si vous voulez, que c'était pas un mouvement de marginaux. Quand j'ai vu ces 40 jeunes femmes sur l'autoroute, à la fois joyeuses, déterminées et qui savaient pourquoi elles étaient là, qui voulaient plus de vie, en fait, c'est un peu ça le problème. On disait, ils n'ont pas... un des personnages, le journaliste, dit, et d'ailleurs, je l'ai beaucoup entendu, ils ne savent pas où ils vont, ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de cible, ils tournent en rond dans le cœur des villes. Bon, c'est vrai, que tout ça est vrai. Mais je pensais que ça exprimait une sorte de dépression, de mélancolie française, si vous voulez, qui dure depuis longtemps. C'est pas nouveau. Ce n'est pas arrivé avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Cette mélancolie française, elle s'est installée dans le pays, dans une moitié du pays, si vous voulez. Il y a une pays qui gambade dans les prairies, dans les prairies fertiles de la globalisation, qui s'y sent bien, qui s'éloigne petit à petit de son propre pays, vous voyez, ces élites. Et puis il y a une autre partie du pays qui est là blessée, qui ne sait pas où vont aller leurs enfants.
Daniel Rondeau, on sent une empathie ou une sympathie pour cette France des Gilets jaunes, pour les Gilets jaunes sur les ronds-points.
Oui, c'est pas uniquement pour les Gilets jaunes. Si vous voulez, bien sûr, j'ai beaucoup de sympathie pour ces gens qui se demandent où va leur pays. On voit bien qu'il y a, quand je dis, ils ont été privés d'une sorte de continuité historique. Avant, l'histoire jouait un rôle très très profond et chacun connaissait son histoire. Dans ce pays, j'ai parlé des industries, j'ai parlé de Saint-Bernard, il y avait aussi Rachi. Contemporain de Saint-Bernard, le plus grand théologien juif était là. Donc tous ces gens ont rayonné, si vous voulez, dans le pays. Georges Duby, l'historien du Moyen-Âge, explique très bien que toute cette période a été un renouveau extraordinaire. Donc tout un pays a été... Une province, mais le pays tout entier, était riche non seulement de choses sonnantes et trébuchantes, de richesses matérielles, mais de richesses immatérielles, spirituelles, familial. Tout ça, ils en sont un peu privés, et naturellement, je comprends qu'ils se demandent, ou ils attendent une parole, et cette parole ne vient pas toujours.
Alors Daniel Rondeau, vous nous parliez du docteur Desmoreaux dans votre livre. Alors cette question des déserts médicaux dans des arrière-pays de ce genre, il y en a beaucoup en France. Hein. Alors on va écouter ce reportage de Béatrice Duguay dans le pays de Bré, aux confins de l'Oise, de la Seine-Maritime et de l'Eure. Une demi-douzaine de praticiens sont sur le point de partir à la retraite dans le secteur de Gournay-en-Bré. C'est un crève-cœur pour les médecins qui ne trouvent pas de remplaçants. C'est un drame pour les patients. On écoute.
La liste que Jean-Michel Dudat égrène est alarmante.
Il y a un médecin de Cerifontaine qui a pris sa retraite il y a 3 jours. Saint-Germain-de-Fly, il est parti, il n'a jamais été remplacé.
Il est le président de la communauté de communes du pays de Bray.
Il va tarder à prendre sa retraite. Il y a Gournay où il y en a quelques-uns qui sont partis, malheureusement. On a Trichâteau, il n'a pas été remplacé. À Gisors, il y en a au moins 4 qui vont partir en retraite et qui n'ont pas de remplaçant.
Conséquence, comme Claire qui habite Gournay-en-Bray, beaucoup se retrouvent sans médecin traitant.
Il n'y en a pas beaucoup et comme ils ont leur habitué, ils ne veulent pas prendre de nouveaux patients.
On a plein de demandes, oui. Oui, c'est compliqué, oui. Ouais, oui, ça sonne encore d'ailleurs. Oui.
Xavier Lambertin, l'un des 2 médecins de la Chapelle au Pot.
Allô. J'aurais voulu savoir si vous preniez des nouveaux patients.
Les élus locaux s'activent pour attirer des praticiens. Projet de maison de santé, entre autres. Mais les patients viennent en ce moment directement au cabinet avec leur dossier sous le bras, explique Xavier Lambertin, qui a pourtant alerté sur le vieillissement prévisible de sa profession il y a 20 ans.
Comme c'était un problème qui était loin, c'est très loin dans 20 ans, on arrivait à assumer tout le travail qu'il y avait à faire. Là, c'est maintenant que les gens se rendent compte, parce que on refuse. Et c'est vraiment compliqué. Moi, je le vis mal, hein. Je le vis de plus en plus mal, ça. J'ai eu une patiente avant Noël, 87 ans, en pleurs au téléphone. Elle me dit, écoutez, docteur, j'ai plus le médicament, je ne trouve personne pour me dépanner. C'est terrible, hein. 87 ans, on est en France.
On est en France.
Oui,
on pas de médecin.
Bon, et mon personnage dit, je suis
le docteur Desmoreaux, oui.
Le dernier des Mohicans, il parle comme toubib.
Oui.
Dernier des Mohicans, j'ai un copain médecin Paris, il vit cette vie à Paris même. Il continue à faire des visites, pas seulement, il ne reçoit pas seulement en consultation, il se déplace, il prend les gens au téléphone. Et j'ai un autre copain qui est médecin en Lorraine du Nord, et ils ont la même vie, ils sont les derniers à exercer cette médecine de proximité. Leurs jeunes confrères qui arrivent, qui s'installent, eux demandent un peu des horaires de fonctionnaires, débranchent leur téléphone la nuit. Bon, donc ces derniers médecins sont vraiment des personnages héroïques. C'est pour ça que j'en ai fait un personnage central de mon livre.
Votre livre, Arrière-Pays, chez Grasset, donc c'est le deuxième volet d'une trilogie intitulée Après tout la France, et Après tout la France et la France, comme vous le disiez. Un troisième volet va suivre, vous avez trouvé le titre provisoire hors sol, c'est ça, Daniel Rondeau?
Oui, c'est un titre provisoire.
C'est un titre provisoire,
le temps que je l'écrive, je vais changer 10 fois de titre. Et je préfère ne pas trop parler de ce livre à venir,
ouais.
Parce que j'ai toujours l'impression que quand on parle de livres qui ne sont pas écrits, ils s'envolent. Donc, je préfère écrire dans le secret. C'est pas du tout que j'ai l'obsession du secret. Oui. Mais je sais que tant que je n'ai pas... On n'est jamais sûr de réussir un livre. On n'est jamais sûr d'y arriver. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut que je l'écrive et on en reparle dans 3 ans, si vous voulez.
Avec grand plaisir. On se retrouve dans un instant, Daniel Rondeau. On passe à l'actualité de la semaine. Grâce à ce mix mis en onde par Anne-Cécile Perrin et présenté par Claire Servageant. Claire, comme vous en êtes rendu compte, n'a pas pu être là ce soir, rattrapée par le Covid. Et à la une, cette semaine, ce sale virus, une fois de plus, avec une explosion des cas, de plus en plus de non-vaccinés en réanimation et une tension de plus en plus perceptible sur le plan politique, notamment autour des non-vaccinés.
J'en appelle aux 5 millions de non-vaccinés. Faites ce geste simple pour vous, pour vos compatriotes, pour notre pays. Toute la France compte sur vous.
L'année avait pourtant commencé dans le calme avec les vœux du président le 31 au soir. Mais lors des débats sur le pass vaccinal lundi à l'Assemblée, on a vite compris que ça coinçait.
Madame la Présidente, le gouvernement demande la prolongation de la séance en cours au-delà de minuit.
Qui est pour ?
9, 80, 81.
Qui est contre ?
1, 2, 3, 4, 86.
On suspend.
La majorité se fait surprendre, l'opposition jubile. Mardi, Jean Castex ne décolère pas.
Certains s'ingénuent à faire des coups politiques pour freiner le débat. Je vous le dis, ce n'est pas responsable.
À propos de coups politiques, le lendemain dans Le Parisien, Emmanuel Macron lâche « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder ».
Ces mots-là, c'est pas un dérapage de plus, c'est un outrage de trop.
Alors, la majorité fait bloc.
On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ?
Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français.
Pas faux, notamment pour les soignants obligés de déprogrammer des interventions alors que la courbe des cas de Covid s'affole, avec plus de 300 000 contaminations mercredi. Pourtant, certains restent inflexibles.
C'est chiant, mais qu'est-ce que vous voulez ? Nous, on a choisi de ne pas se faire vacciner, c'est comme ça.
Plus ils embêtent les gens avec ça, et moins j'ai envie de me faire vacciner.
D'autres finissent par se laisser convaincre.
Je ne peux plus rien faire, sinon dehors, je ne peux plus sortir avec mes amis. Je suis obligée de se faire vacciner.
La réalité, c'est que vous obligez les personnes à se vacciner en les condamnant à une mort sociale.
Entre mort sociale et mort tout court, cette non-vaccinée qui sort de réanimation a un message à faire passer.
Mais je crois que je suis bien placée maintenant pour dire que, effectivement, je regrette de ne pas m'être fait vacciner. Si tu veux pas atterrir en réa avec un tube dans la gorge, eh bien, tu le fais.
Le pass vaccinal adopté en première lecture à l'Assemblée, il sera en débat au Sénat la semaine prochaine. Sans attendre, certaines mesures sont entrées en vigueur par décret, comme le port du masque dans les transports et les lieux publics dès l'âge de 6 ans.
Quand je le porte déjà à l'école, j'ai la chaleur qui me revient sur le visage.
Ça le gêne, il transpire beaucoup, il enlève, il le remet, il touche avec ses doigts, il éternue dedans, il tousse dedans, il fait un peu tout, donc voilà.
Autre nouveauté pour boire dans les cafés, c'est désormais assis et plus debout.
Je comprends pas le souci d'être debout au bar. Ça va changer qu'on va être obligé de les faire asseoir.
Viens, je te fais un café.
Et encore, soyez contents de pouvoir boire et manger, car dans les transports longue distance, même assis, c'est fini.
Il est strictement interdit de consommer à votre place durant tout le trajet.
Enfin presque.
Si vous avez besoin impératif de boire ou de manger.
Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari.
Parce que vous êtes fragile ou simplement parce que vous avez ce besoin physiologique, vous pouvez retirer votre masque et manger rapidement et le remettre tout de suite après.
Mais faut pas traîner.
C'est 2 heures. Je pense que je vais arriver à survivre quand même.
Allez, on vous la souhaite bien bonne malgré tout.
Bonne année.
Happy New Year.
Voilà, et encore merci à Anne-Cécile Perrin pour ce mix. Et Claire Servageant, ce soir, ça va, vous la retrouverez bientôt. Une semaine en France, en compagnie de Daniel Rondeau, écrivain, journaliste, éditeur, diplomate, académicien. Cette crise du Covid, Daniel Rondeau, est une épreuve pour nos démocraties, c'est vrai, en France, c'est vrai ailleurs. Comment on concilie liberté et sécurité sanitaire ? C'est pas toujours simple.
Je pense que cette crise est une révélation déjà de nos faiblesses. Depuis deux ans, on s'est aperçu que justement notre industrie pharmaceutique qu'on avait délocalisée nous manquait. Et que maintenant on s'aperçoit que les pièces qu'il faut faire venir pour les voitures de Chine, c'est plus compliqué à cause du Covid, à cause de tout ça. Donc c'est un révélateur assez formidable. De notre impuissance. Je pense qu'il faut prendre cette crise. Bon, moi, soyons positifs. Faut en tirer les leçons le plus vite possible. Alors, sur cette histoire de liberté, je pense que la liberté qui nous menace, qui est la plus menacée chez nous, c'est pas la liberté des personnes, c'est pas la liberté des gens. Bien sûr qu'il faut se vacciner. Je pense que ce qui nous menace, c'est que notre liberté et notre souveraineté française est menacée par notre faiblesse. Nous avons à la fois la Chine, qui a une vision mondiale et des ambitions mondiales, et qui exerce son ambition, souvent à bas bruit, sans que nous en rendions compte. Je raconte dans mon livre comment, par exemple, c'est un exemple, mais ils ont racheté des verreries, et comment ils sont en train d'accaparer nos forêts, de faire fermer les scieries. Bon, ce sont des exemples parmi d'autres. Donc, il y a une ambition mondiale, les Chinois, et d'autre part, il y a l'ambition américaine qui veut toujours tenir l'Europe dans une condition de modestie obligée. comme si l'Europe devait être tenue en laisse. Donc je pense que c'est là que notre liberté est menacée, c'est ça qu'il faut restaurer.
Je voudrais entendre Daniel Rando sur un mot qui a fait beaucoup causer cette semaine, et il est beaucoup question d'ailleurs d'Emmanuel Macron dans votre livre, et le mot qui a fait la une cette semaine, c'est Emmanuel Macron qui a envie d'emmerder les non-vaccinés.
Oui. En fait, il y a eu deux événements. Il y a eu le drapeau.
Ah oui, oui, il y a le drapeau européen sous l'Arc de Triomphe également.
Le drapeau européen, bon, et puis les non-vaccinés, j'ai bien envie de les emmerder, hein, c'est
ouais,
ça.
Oui.
Bon, donc le drapeau européen, je trouve que c'était assez malvenu. C'était assez malvenu parce que le président.
Malvenu de mettre le drapeau européen ou de critiquer ?
Non, de le mettre. Je trouve que c'était assez malvenu. C'était une faute politique. Parce que le président Macron a donné l'impression qu'il effaçait le drapeau français. Nous sommes dans une période où la cancel culture est à l'œuvre. On efface beaucoup. Donc il faut faire très attention aux symboles. Et par ailleurs, on sait que le bâtiment avait été dégradé, l'Arc de Triomphe dégradé par les Gilets jaunes. Oui. Et dans le contexte général, je pense qu'il faut être très prudent et très vigilant avec les symboles. Donc d'ailleurs, le drapeau était décroché précipitamment dans la nuit qui suivait.
Selon le calendrier prévu, a toujours dit l'Élysée.
Non, oui, c'est pas ce qu'avait dit le ministre Beaune.
Clément Beaune.
Il avait dit c'est plus Clément Beaune. Il avait dit c'est pour plusieurs jours, mais bon. Bon, en tout cas, l'incident est clos. L'autre, c'est la phrase d'Emmanuel Macron. Les non-vaccinés, j'ai bien envie de les emmerder.
Oui.
Bon, moi, je me dis, qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre que le président n'est plus le président, mais qu'il est rentré en campagne. Première chose. Deuxièmement, je me dis que tous nos leaders politiques, tous nos responsables politiques ont tous envie de s'exprimer aujourd'hui sur le mode de Donald Trump. C'est un peu la tendance. Le trumpisme fait des ravages dans l'expression de nos hommes politiques. Je crois que nos hommes politiques, ils ont un devoir, c'est de nous dire la vérité. Bon, chose qu'ils n'ont pas toujours faite. Depuis 30 ans, on voit bien qu'il y a eu des dénis de réalité énormes sur un certain nombre de problèmes. La première chose, c'est de nous dire la vérité, de nous proposer une vision. Et ils peuvent parfois employer un langage un peu brutal, s'il le faut, pour nous secouer les puces. Mais ils ne sont pas obligés, ils n'ont pas d'obligation de nous parler avec un langage de charretier.
Vous êtes académicien, Daniel Rando. Vous avez été élu en 2019 au fauteuil de Michel Déon, reçu en novembre 2021, car là aussi le Covid est passé par là. L'Académie française, alors, s'insurge contre les nouvelles cartes d'identité, désormais bilingues, français-anglais. Cela a été fait pour répondre à un règlement européen qui demande qu'elles soient traduites dans au moins une langue de l'Union. L'Académie française, par la voix de sa secrétaire perpétuelle, Hélène Carrère-Dancos, annonce donc qu'elle va porter l'affaire en justice, en rappelant que la langue de la République, c'est le français. Explication, Augustin Arrivé, on écoute.
Ce qui met peut-être le plus en colère Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie, c'est de ne pas être écoutée, parce que ses critiques, elle les a déjà formulées au printemps, avant la mise en circulation de la carte, mais aucune réaction depuis. Un courrier vient donc d'être envoyé à Matignon et au ministère de l'Intérieur. Sans réponse d'ici deux mois, ce sera le recours devant le Conseil d'État. Sur le fond, la décision française ne sort pas de nulle part. L'Union européenne impose depuis trois ans de traduire dans au moins une autre langue de l'Union, l'intitulé du document, donc en l'occurrence carte nationale d'identité. Mais en traduisant tout, ça revient selon les académiciens à remettre en cause l'ordonnance historique de Villers-Cotterêts sur le français, seule langue officielle des documents administratifs. Qui plus est, pourquoi une traduction en anglais plutôt qu'en italien ou en roumain ? Ou à l'inverse, pourquoi s'arrêter là ? Sur les cartes d'identité allemandes, tout est écrit en allemand, en anglais et en français.
Alors Daniel Rondeau, vous l'Européen, vous l'académicien.
Je suis bien tout à fait solidaire. C'est la première fois que l'Académie française, depuis sa création, va intervenir en tant que personne morale de droit public auprès de nos responsables politiques et administratifs. C'est-à-dire, ce que nous demande l'Europe, comme l'a dit le reportage, c'est que le titre du document, carte d'identité, soit écrit dans une deuxième langue.
Oui.
Le ministre Darmanin a fait rédiger toutes les mentions de la nouvelle carte d'identité à la fois en français et en anglais. Bon, on se demande, puisque nous sommes tous conscients que la langue française est un des enjeux fondamentaux de notre indépendance, de notre histoire. Ce n'est pas indépendant du reste. Je parlais tout à l'heure de l'industrie, de l'économie. C'est tout ça forme un bloc. C'est ce qu'on, avec notre histoire. Donc, je ne comprends pas pourquoi le ministre s'est engagé dans ce processus qui est bon. Je pense que Hélène Carrère-Dancausse a bien raison. Elle a dit aussi que sur la carte d'identité, les questions d'identité, c'est fondamental. C'est notre identité. On l'exprime pas en anglais. Et je rappelle qu'il y a que depuis que les Anglais ont quitté l'Europe, il y a que deux pays qui parlent l'anglais, qui sont anglophones. C'est l'Irlande et Malte. Donc, on pourrait presque oublier l'anglais pour toutes les discussions dans les organisations européennes.
Alors, on change de sujet, Daniel Rondeau, un sujet important pour vous et pour nous, parce que certains de ceux qui ne vous connaissaient pas encore vous ont découvert le 9 décembre 2017 à l'église de la Madeleine à Paris, à l'occasion des obsèques de Johnny Hallyday. C'est vous qui avez prononcé l'horizon funèbre de Johnny Hallyday. Je vous propose d'écouter un extrait de cet horizon.
Quand je l'interroge sur son rapport à la France, il répond sur le ton de l'évidence. Je suis français et ma ville, c'est Paris. Ajoutant un peu plus tard, comme je suis né catholique et mourrai catholique. Il avoue son admiration sans frein pour le général de Gaulle. Jacques Chirac est son ami, comme Nicolas Sarkozy plus tard. Il dîne avec François Hollande, puis se liera avec Emmanuel Macron. C'est son côté Jean d'Ormesson, l'homme talisman des présidents.
L'homme talisman des présidents. Vous avez rencontré Johnny Hallyday il y a bien longtemps, en 1978. Jeune journaliste, c'est ça?
Oui, j'étais même pas journaliste. J'étais producteur d'une petite émission de radio sur une station qui avait très peu d'auditeurs, mais qui dépendait de Radio France, qui s'appelait Radio Nord-Est. Et là, j'avais fait le rédacteur en chef qui s'appelait Christian-Marie Monod. M'avait dit, mais puisque j'avais croisé dans le couloir, il m'avait dit, on n'arrive pas à avoir une interview, prends ton agra et va voir si tu peux avoir une interview de Johnny. Voilà.
Et alors, vous êtes filé en backstage?
Je suis
il ne veut pas vous parler au début?
Johnny était dans sa loge, il ne voulait pas sortir, et j'ai identifié un de ses hommes, quelqu'un de son équipe, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi, quand Johnny m'a dit, je suis son secrétaire, son chauffeur, son garde du corps. Ah ben, je lui ai dit, c'est toi que je cherchais, moi je vais faire une interview, rentre dans sa loge et va lui demander. Et je lui ai tellement cassé les pieds, qu'il a fini par y aller. Il est ressorti 3 secondes après, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. J'étais même pas sûr qu'il y avait parlé. Et en fait, Johnny est apparu, la porte s'est ouverte, avec son pantalon de cuir noir, sa guitare dans le dos, une sorte de figure assez idéale de la mélancolie rock'n'roll. J'ai compris ce qu'était une star, parce que tous les gens se sont plaqués contre les murs. Vous voyez, les pompiers, la police, l'équipe, le staff, tout ça, tout le monde se plaquait. Moi, j'étais assis avec mon nouveau copain par terre, et mon agra, je me suis dépêché de me relever. Et puis... quand il est passé devant moi, l'autre avait dû lui dire « il y a un casse-pied avec une mèche ». Il s'est arrêté devant moi, il m'a dit « c'est toi qui veux m'interroger ?» Après, il m'a dit « tu sais mon métier, moi, c'est chanter, c'est pas parler ». Mais passe dans ma loge après. Je suis passé dans sa loge après, j'ai fait une interview, il était particulièrement aimable et chaleureux. Et je remballais mes affaires, il m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « je m'en vais ». Ben, il m'a dit non, on va dîner ensemble. Il avait réservé le seul restaurant ouvert à 3h du matin. Il l'avait privatisé, qui était le Courte Paille de la zone industrielle. Et je me suis retrouvé là avec Johnny pour la nuit. Et nous sommes restés amis jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. Vous admiriez sa force brute,
l'énergie
qu'il dégageait?
Non, mais c'est. Je pense qu'on n'a pas fini de comprendre qui il était, si vous voulez. D'abord, je crois que maintenant, on ne le disait pas. Il était très souvent critiqué, méprisé, raillé. Bon, c'était quelqu'un d'assez exceptionnel, qui avait des qualités de showman exceptionnelles. Et je pense que c'est un des meilleurs showmen du monde. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais arrêté de travailler. Et par ailleurs, on parlait des mots tout à l'heure et de la langue française. Mm-hmm. Beaucoup de gens dans notre pays ont des rapports très compliqués avec la poésie, avec la lecture, avec le langage. Et Johnny leur a donné à tous une certaine idée de la poésie. Il y avait parfois une grande poésie dans ces chansons. Il y a de très belles chansons de Johnny, comme chez tous les chanteurs. La chanson, c'est aussi ça, c'est arrêter le temps des hommes avec des mots et un peu de musique. Donc, bon, Johnny, non, je l'aimais parce que il était assez exceptionnel, très original, très singulier. Je pense qu'on n'a pas fini de prendre la mesure du personnage.
C'est vrai que Johnny disait à Laetitia, Daniel Rondeau, il est formidable, il répond à toutes les questions, il a toujours une réponse, il sait tout.
Oui, c'est ce qu'il disait, d'ailleurs c'était faux.
Alors, est-ce que vous êtes là, Daniel Rondeau, à écouter ? On va écouter un disque qui va sans doute surprendre nos auditeurs. Poème sur la 7e, Johnny Hallyday, sur la 7e symphonie de Beethoven, deuxième mouvement. C'est la date de 1970.
C'est Philippe Lamoureux qui a fait la...
Pardon,
c'est Philippe Lamoureux qui a fait les paroles, c'est ça qui a fait les paroles.
C'est Philippe Lamoureux, absolument. Ah. Il y a 52 ans, et la voix de Johnny, vous allez voir, c'était pas du tout, tout à fait la même en tout cas. On écoute, et c'est vraiment un enregistrement extraordinaire.
Qui a couru sur cette plage? Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne. Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Alors, ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé? Dites-moi, alors ne me racontez plus d'histoires. J'ai besoin de toucher et de voir pour y croire. Vraiment, c'est vrai? Le sable était blanc? Vraiment, c'est vrai? Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons? C'est vrai, ça a vraiment existé. Ça a vraiment existé. Vraiment.
Waouh, Johnny Hallyday. Poème sur la 7e, oui, Daniel Rondeau.
Vous voyez, tout à l'heure, quand on parlait au début de l'émission des personnages d'arrière-pays, je disais que ce qu'ils voulaient, c'était vivre, qu'il leur manquait quelque chose, une espérance, une parole. En fait, Johnny a tous ces gens de la France d'en bas, des bas quartiers, déjà depuis longtemps. Ce qu'il a donné en permanence, c'est un peu de ce surcroît de vie intense qui était la sienne. Il leur a fait partager, il a partagé avec eux tout ce qu'il avait de fort, d'intense, de brillant, d'inaccessible, et il leur a donné.
Johnny Hallyday, poème sur la 7e. C'est Djoubaka qui a sélectionné cette pépite qui, je trouve, donne des frissons.
France Inter, le 18-20. Frédéric Barrère.
Et toujours en compagnie de l'écrivain Daniel Rondeau, dont on va détailler le parcours maintenant. né en mai 48, au Ménil-sur-Oger, dans la Marne, au pays du Champagne.
Oui.
Hein, vous êtes fils d'instituteurs, vous êtes partie de ceux dont on dit qu'ils ont été à l'école de leurs parents. C'était quoi un enseignement très strict?
Oui, j'étais d'abord, je suis né dans l'école de mes parents, dans ce village de Champagne, qui était un grand cru de Champagne, blanc de blanc.
Oui.
Et ensuite, j'étais dans la classe de ma mère, à l'école maternelle, et dans la classe de mon père. Mon père, qui était un instituteur assez... Mes deux parents étaient des gens, des enseignants exceptionnels. Mais bon, je me souviens bien de mon père à l'école, avec sa blouse grise, sa cravate, et ses cheveux roux en brosse. Un air assez sévère, il ne l'était pas, mais il donnait l'apparence d'une sévérité. Il était sévère avec moi, surtout, mais pas avec les autres. Et je l'appelais monsieur, et c'était quelqu'un d'exceptionnel.
Votre grand-mère vous a appris à boire du champagne avec de la limonade?
Oui, je promenais, pendant les vacances, je me promenais en bicyclette pour aller dans les marais de Saint-Gonge, j'allais voir ramasser des silex, bon, j'étais passionné d'archéologie, d'histoire. Et quand je revenais, j'avais l'habitude de m'arrêter chez ma grand-mère, sous un auvent, c'était l'été. Et elle me disait, mon garçon, va nous chercher une bouteille à la cave. J'allais chercher une bouteille de champagne. Quand je revenais, elle avait préparé deux grands verres en moutarde, vous voyez?
Oui.
Elle mettait un bocal avec des biscuits roses, des biscuits fossiers.
Mmh.
Et elle panachait le champagne et la limonade. C'était délicieux.
Alors, Daniel Rondeau, je vais goûter. Daniel Rondeau, vous avez fait vos études de droit à Nancy, où vous rencontrez Jack Lang, puis à Paris, à Assas. Et puis, vous faites partie de la génération qui a eu 20 ans, tout pile, en 68, en mai 68. Oui. À l'époque, vous êtes à Nancy ou à Paris?
À Nancy.
L'âge de la culture politique, mai 68, et pour vous, ce sera la gauche prolétarienne, et vous devenez, après 68, hein, tout de suite après 68, vous devenez un établi en Lorraine. Alors, vous arrêtez vos études, hein, vous allez travailler à l'usine. Pour ceux qui ont oublié cette histoire des établis, quel était l'objectif? Provoquer une révolution?
Bon, ben bien sûr qu'on était révolutionnaires, donc nous pensions que nous pourrions provoquer une révolution en partant d'en bas, de l'usine, de la cité. D'ailleurs, il y a des phrases de Peggy qui font penser à ça maintenant. Et notre objectif, c'était de partager le pain des pauvres. C'est pour ça que quand Saint-Bernard, je retrouve Saint-Bernard après, je me dis, bon, tout ça rentre en résonance. Saint-Bernard aussi cherchait l'humilité, la pauvreté, le travail manuel et l'étude. Donc, je ne dis pas... Mais en tout cas, voilà, je me sentais... Et j'ai passé plus de 3 ans à l'usine. Bon, ce sont des années qui sont pour moi des années de fondation. Des années, j'étais à l'école d'une fraternité ouvrière et j'ai vécu des scènes de poésie en noir et blanc dans les ateliers qui m'ont marqué pour jamais. Je sais, je continue, vous parliez de la sympathie, je continue à les aimer 50 ans après.
Ça va raconter ces années dans votre livre L'enthousiasme. Oui. Hein. Alors, toujours est-il qu'après l'usine, vous reprenez les études et vous vous mettez à recueillir des témoignages que vous publiez dans un premier livre, Chagrin Lorrain, La vie ouvrière en Lorraine. Et puis, vous faites notamment pour la radio, vous le faites aussi pour la radio dont vous parliez, Radio Nord-Est. Ça faisait partie de FR3 à l'époque et votre émission, vous nous l'avez dit, s'appelait Mémoire ouverte. Et Irène Ménahem, qui a préparé l'émission avec moi, en a retrouvé un extrait grâce à Lina.
Mémoires ouvertes. Daniel Rondeau, François Baudin.
Dans ce grenier, non seulement des enfants, mais nous étions toute une équipe de gosses dont les pères étaient des militants du mouvement syndical, qui se réunissaient là pour voir ce qui se passait, et surtout les bagarres avec la police, quand il y avait des bagarres avec la police.
Alors, ils étaient enfants, notre invité s'appelle Camille Touvenin.
Et on aura l'occasion de l'entendre pendant...
On va l'entendre très souvent pendant cette émission. Et ces enfants qui ne perdent rien, qui sont cachés dans le grenier paternel, qui ne perdent rien du spectacle de la rue, sont des enfants de mineurs. La scène se passe en 1906.
Voilà, des enfants de mineurs. Bon, mémoire ouverte.
Je remercie Irène, c'est la première fois que je réentends un extrait de ses émissions. Quoi.
Très
je
bon
me souviens très bien de Camille Touvenin, c'était un mineur de 9 maisons, qui avait chez lui sa banderole syndicale rouge. C'était d'ailleurs trois frères, plusieurs frères, les frères Touvenin, c'était des leaders syndicaux. Il est devenu membre du Parti communiste à la suite. Et ce qui m'avait aussi intéressé, passionné chez lui, c'est qu'il avait vécu enfant les grandes grèves de 1905. Il m'avait raconté les charges avec des mineurs par les chevaux, enfin bon. Et si vous voulez, moi j'avais travaillé pour mon livre Chagrin Lorrain sur les archives ouvrières, c'est-à-dire en sortant de l'usine, ça a été mon sas de décompression. Écrire, c'est un privilège parce que ça nous permet d'être séparés de personnes. Donc j'avais quitté les ouvriers de l'usine avec qui j'avais vécu pendant 3 ans, mais je continuais à vivre un peu avec eux par le biais des archives. C'était leur vie que je continuais de raconter. Et ensuite, je les retrouve pour la radio, je les interviewe, et bon, et c'était pour moi des émissions qui me... Je sais pas si elles passionnaient les éditeurs, mais moi, elles me passionnaient.
Alors après, vous devenez journaliste hein, pour de nombreux journaux, Libé, Libération, L'Express et Le Nouvel Obs à l'époque, Le Monde, Paris Match. On est allé vous chercher, Serge Julie est allé vous chercher, vous refusez une première fois pour diriger le service culture, et puis vous finissez par accepter.
Oui, Serge Julie m'a appelé parce que bon, c'était juste, je venais de publier Chagrin Lorrain, je faisais mes émissions, j'avais participé, comme tous les militants de cette époque, à la création de Libération. J'avais envoyé plusieurs articles à Libé qui étaient passés. Et Serge Julie m'a appelé en me disant, tu vas venir diriger le service littéraire de Libé. Et je lui ai dit non, c'est pas possible. Si tu veux, je viens de passer 3 ans à l'usine, j'ai rien lu. Je recommence à lire, je commence à écrire. Je passe toutes mes journées, tout mon temps libre à lire tous les livres que nous avions failli brûler. C'était de ça dont il était question. Donc j'essaie de sauver tout ce que je peux. J'écoute de la musique classique, je passe mes journées avec Bach, avec Schubert, avec Mozart. Et Julie me dit, tu vas diriger les pages. Je dis non, c'est pas possible. Je ne suis pas capable. Il m'a dit, j'ai jamais entendu une connerie pareille. Et il m'a dit, l'histoire ne passe pas 2 fois les mêmes places, c'est dommage pour toi, tu laisses passer ta chance. Et 1 an après, il m'appelle, et son premier mot, c'est de dire, l'histoire repasse les plats. Et là, j'étais prêt, parce que je n'avais jamais arrêté de travailler pendant 1 an, de lire, j'ai retrouvé mes carnets de notes récemment, c'est assez, d'ailleurs, je vois mes obsessions, je vois que j'avais déjà l'obsession littérature et l'Europe, qui sont liées d'ailleurs.
Alors, il y a l'Académie française, il y a le passage ambassadeur à Malte, nommé par Nicolas Sarkozy. L'Académie française, 3e tentative qui a été la bonne, se retrouver à l'Académie quand on a commencé comme établi dans les usines de Lorraine, c'est pas banal?
C'est pas banal, mais si vous voulez, là, je sais que les gens disent que j'ai plusieurs vies, que j'ai fait des choses différentes. Mais moi, je vis ça de façon un peu différente. Depuis que j'ai quitté l'usine, je suis sur un axe, c'est l'axe littéraire. Mon obsession, c'est la littérature. Et j'ai tout donné à la littérature. Pour écrire, je parle pour moi, il faut que je vive. J'ai eu la chance de recevoir plusieurs coups de fil. Vous avez parlé de celui de Serge Julie, pour Libération, pour le journalisme, celui de Kouchner, pour la diplomatie. À chaque fois, brusquement, quand l'opportunité s'est présentée, de faire autre chose, de sortir de mon trou pour vivre avec d'autres gens et faire des choses avec d'autres gens. Parce que je suis un solitaire, je vis dans la solitude en Champagne et en même temps, de temps en temps, j'ai besoin de faire des choses avec d'autres. Donc quand l'occasion s'est présentée, je suis sorti de mon trou et toujours, je suis retourné à mon trou, y compris pour la diplomatie où j'ai démissionné de mes fonctions quand j'étais à l'UNESCO.
À l'UNESCO, oui.
Pour dire, je rentre chez moi. À ce moment-là, le président Hollande m'a dit, mais c'est politique. Je suis pas toujours d'accord avec votre politique. Mais c'est pas pour ça, il faut que j'aille écrire.
L'écriture, puis il y a aussi la boxe, et puis ce parcours, c'est important, la boxe pour vous. Ce parcours dont on parle depuis tout à l'heure, il s'est fait avec une certaine Noëlle, c'est votre épouse, qui vous dédicacez tous vos livres, qui vous suit depuis le début, y compris quand vous avez choisi, Daniel Rondeau, d'aller à l'usine en Lorraine, donc vous êtes...
Non mais j'ai rencontré, elle avait 17 ans, donc...
Vous êtes époux, donc, vous êtes père et grand-père. En 2 mots, quelle histoire vous racontez à vos petits-enfants?
Avec nos petits-enfants, je pense que nous parlons énormément d'aujourd'hui.
Ouais.
Nous parlons de politique. En gros...
Il nous reste très peu de temps. Daniel Rondeau.
Bon, moi j'ai deux, la politique et la littérature. Et je ne les sépare pas, parce que je n'ai jamais séparé l'amour de mon pays de l'amour des livres et de l'amour de la littérature et de la langue française. Donc, de quoi parlons-nous avec nos enfants et nos petits-enfants ? Nous parlons de littérature et de politique.
Merci Daniel Rondeau, merci beaucoup
infiniment
d'être venu ce soir sur France Inter.